Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédons petits bourgeois de
Tu cherches un?
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres?
Non.
Mais que diable est différent dans cette galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des poils autres problèmes.
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de janvier 2021 de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps de faire le tour du paysage du spectacle vivant. Oui, je sais, nous sommes en 2021 et nous parlons encore de spectacle vivant, tout à fait. Cette émission est une coproduction entre le Tangramme et Principe Actif et c'est aussi l'occasion d'avoir la joie de co-animer avec Cécile et Nathalie. Bonjour.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors au programme de cette émission sur le spectacle vivant.
Oui, le spectacle est bel et bien encore vivant et c'est de vie justement dont il va être question. On va échanger avec Ben Herbert Larue dans quelques instants. On avait envie de d'échanger avec lui.
Oui, et aussi de se dire, aujourd'hui, la parole des artistes, dans ce contexte très particulier de la pandémie et ce qu'on vit et traverse, qu'est-ce que ça fait au niveau de la création artistique et comment c'est vécu, mais du côté de l'artiste et non plus du côté de la diffusion ou de la direction de salle.
Alors nous irons également explorer les ateliers éducatifs, justement parce qu'on disait qu'on allait explorer du côté des artistes, mais aussi du côté des jeunes bambins.
Oui, on est allé faire un petit tour et on a laissé traîner les micros dans les écoles de Netreville avec Laetitia Adjanoun qui a débuté une résidence au sein du quartier. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure.
On tentera un agenda plutôt exhaustif cette fois-ci, je suis pas certain.
Ouais, très rapide, très très rapide, de ce que vous auriez pu voir peut-être.
Allez savoir.
Futuriste peut-être.
C'est ça, on va le projeter dans plus longtemps cet agenda. Nous retrouvons bien entendu un extrait de film en toute fin d'émission, une espèce de tradition de scène de vie, vie de scène. Mais tout de suite, nous retrouvons une autre de nos traditions, à savoir le petit son d'ambiance et nous revenons juste après.
Bonjour monsieur. On va parler aujourd'hui de la fermeture des lieux de spectacle, des cinémas.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez à titre individuel de cette décision de fermeture?
Je trouve que c'est dommage pour les personnes qui pratiquent, je pense à des associations comme j'ai mes petites filles qui font de la danse et tout, qui n'ont plus ça, ou pour les gens, beaucoup de personnes disent qu'ils ne peuvent plus aller au cinéma, etc., ou voir des pièces de théâtre et ça leur manque. Voilà.
Je trouve que c'est pas très logique de les fermer parce que on peut les ouvrir tout en respectant les distanciations, les règles.
En fait, on est tous non essentiels, je crois. Mais au final, on est tous indispensables. Alors, pour être très honnête, non, pas vraiment. Donc déjà, bon, je vais pas beaucoup vous aider. Mais après, ça apporte quand même de la vie. Les gens sortent plus, discutent de plus de choses. Et puis là, c'est plus calme. On a beaucoup moins de choses à parler. Donc forcément,
il y a moins d'échanges.
Exactement.
Humains, on va dire.
Voilà. On a beaucoup de clients par contre qui se plaignent de ça, des cinémas fermés. parce que c'était une petite sortie qui coûtait encore bon, qui malgré tout coûte de plus en plus cher, mais quand même qui faisait partie du budget de plus de personnes qu'on ne le pense. Donc forcément, ça y fait quoi.
Ouais, moi, j'ai mon chéri qui est dans la partie. Donc bah, c'est oui. vrai que du coup, il est beaucoup, beaucoup privé. Et effectivement, hein, il y a moins de sorties les week-ends, c'est beaucoup plus triste, on n'a plus de cinéma, on n'a plus de salle de concert, on n'a plus de théâtre, il n'y a plus rien, donc c'est vrai que ça manque beaucoup quand même, et même pour le moral des gens, hein, surtout aussi, parce que du coup, c'est tout est triste, tout est fermé, les bars, tout ça, donc nous on a réussi à rouvrir, mais bon après, voilà. Pour combien de temps, on ne sait pas encore, mais
Je pense que si c'était avec les cinémas, on aurait pu faire un ciel sur deux, un ciel sur trois, ou il faut quand même continuer à aller au cinéma, aller au théâtre, aller
ça va peut-être plus s'adapter quoi. Adapter les protocoles sanitaires pour que ce soit possible d'y aller quand même.
Pas les faux, c'est dans les salles de concert par exemple, mais les salles de cinéma qu'on est assis ou.
Les salles assises.
Il n'y a pas plus de risque pour aller là, on est là en train de se parler. Je pense pas.
Vous étiez vous-même spectateur de spectacle, de concert, de cinéma,
vous appelez
cinéma, oui.
Cinéma, oui. Et puis de par les petites filles qui font des associations, donc on allait voir les spectacles de danse, voilà, c'est tout.
Et quelquefois sur Rouen au Zénith aussi pour voir. Donc là, on a un spectacle qui se fait 2-3 fois qui est reporté. Donc voilà.
Et comment vous palliez du coup en attendant un jour peut-être la réouverture de ces lieux? Est-ce que vous avez d'autres alternatives?
Non. À part la télé, Et puis en plus, en ce moment, franchement, on est vraiment pas gâtés au niveau du programme. Je tiens à le dire, puisque on est vraiment là, vraiment pas gâtés. Donc on remercie quand même la télévision. Nous, vous pensez que des navets ou des rediffusions 40 fois. Enfin bon, à part ça, après c'est internet.
La lecture.
Oui, pas mal de lecture.
Les lectures et puis toutes les plateformes de streaming payantes, quoi. Netflix, tout ça, quoi.
J'essaie de faire du sport, de mon côté, parce que vu que les salles sont fermées. C'est tout. Je ne suis pas trop écran.
D'accord.
Ouais, de la lecture.
Il y a beaucoup plus de choses qui se font sur internet, effectivement, comme la vente de CD. Hein. La vente de CD maintenant c'est uniquement en ligne. Parce qu'on n'a plus que ça. Tout était fermé pour même acheter un livre et tout ça. Donc effectivement, on se sert beaucoup plus d'internet qu'avant. Les week-ends, on essaye de les passer comme on peut à la campagne ou
devant la télévision.
On a changé complètement nos habitudes en fait par la force des choses.
Exactement.
On est beaucoup plus casanier.
On se rend compte que finalement.
Au final, on prend d'autres habitudes parce que ça fait quand même des mois que ça dure maintenant. Donc on a pris un autre rythme les week-ends, tout ça. C'est vrai que les samedis soirs, on pense plus sortie, on pense jeu de société avec les enfants ou un petit livre et puis.
Mine de rien, sur Évreux, c'est vrai que ce qui faisait vivre un peu la ville, c'était les bars avec les petits concerts qu'il y avait des gens d'Évreux, tout ça, qu'il n'y a plus. Donc forcément, les gens sont plus attristés. Hein.
Yourself free from your ego. Mama told me, don't hold back. Mama told me, no turning back.
Et nous écoutions David Walters avec son titre Mama. Voilà, à découvrir.
Bonjour Ben Herbert Larue, bienvenue sur les ondes de Principe Actif. Pour rappeler, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors dans nombreux de nos auditeurs vous connaissent, Ben, vous êtes musicien, auteur, compositeur, interprète, vous activez et vous vivez dans la région, pas très très loin de chez nous. On aurait dû vous accueillir à Évreux au Tangramme, au Cube, plus spécifiquement avec votre dernière création, L'Ogre de Papier, c'était en novembre dernier, et puis bien évidemment... avec toutes les nouvelles et toute cette pandémie, les spectacles, les salles de spectacle ont de nouveau fermé leurs portes. Voilà, tout ce qui fait aussi un petit peu le sel de la vie s'est arrêté, puisqu'on ne peut toujours pas partager des moments ensemble, c'est toujours compliqué, on ne peut toujours pas s'embrasser, enfin bref, on ne peut... presque plus vivre, enfin en tout cas tout ce qui apporte un peu la valeur ajoutée nous est interdit, enfin en tout cas largement et très fortement déconseillé. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Ben, justement. Ah,
on a perdu Ben.
On a perdu Ben, donc ouais, je vais le rappeler.
En fait, voilà. C'est ça, je l'ai vexé.
Elle dit, oh non, finalement, je suis démoralisée, je ne veux plus.
C'est ça.
Oui, Ben Herbert Larue, qui devait bien se produire sur les scènes du Tangramme, au Cube. Ouais. C'est vrai que c'est un artiste un peu qui a son public dans la région, mais pas que, qui agit quand même, continue d'agir en direction de public aussi, sur le territoire, parce que même les théâtres sont fermés, mais l'action arrive,
l'action
aussi
continue. On a récupéré, on vous a récupéré, Ben.
C'était très joli ce que vous étiez en train de dire.
Je continue alors dans ce sens et j'enchaîne avec je disais, on allait rentrer dans le vif du sujet pour savoir vous, humainement et intérieurement, comment on la traverse cette pandémie qui s'installe et qui est bientôt qui nous accompagne là depuis presque un an maintenant. Comment ça vous traverse en tant qu'être humain?
C'est vraiment l'ascenseur, quoi, l'ascenseur émotionnel, avec des hauts et des bas, des creux de vagues et puis des moments où ça va mieux. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de pas savoir, d'être dans un flou total, de pas savoir à quelle sauce on va être mangé demain. Voilà, donc ça c'est un petit peu compliqué à gérer, du coup faut trouver une dynamique là-dedans. Alors moi j'ai trouvé une dynamique d'écriture, donc j'écris beaucoup, j'écris des choses qui vont pas forcément sortir, mais voilà, j'écris, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce dans quoi je me plonge. Après,
Après, il y a quand même des actions qui sont menées en ce moment. Il y en a eu à Évreux, il y en a eu à Rouen hier. Donc, je m'investis vachement là-dedans. J'écris pour ça. Savoir qu'il y a quand même, on est quand même ensemble. On est tous séparés, mais on est ensemble. Et ça, c'est bien de le savoir et de se le dire.
C'est important de maintenir du lien comme on peut. Enfin voilà, il faut effectivement inventer et puis maintenir ce lien. D'autant que je pense que, enfin, en tant qu'être vivant, mais aussi en tant qu'artiste, conserver ce lien, c'est ce qui donne du sens à vos métiers aussi. Enfin, et à nos métiers, à tous.
Ben, on fait du spectacle vivant, c'est sûr. Hein. Donc là, on est dans une Donc le lien, en fait, il est essentiel. C'est par les autres qu'on se nourrit tout le temps. Donc quand il n'y a plus d'autres, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus l'imaginaire n'existe plus. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on continue de savoir qu'on est ensemble, de communiquer par d'autres biais. Après, c'est vrai que ce qui est profondément injuste en ce moment, c'est justement la fermeture des salles de spectacle, quand on voit qu'il y a d'autres lieux, genre des lieux de culte qui sont ouverts, et ça c'est super pour eux. Hein. Et je trouve que c'est pas juste que nous. Avec tous les protocoles qui ont été mis en place dans toutes les salles de spectacle, qu'on n'ait pas le droit d'exercer, c'est parce que pourquoi on est forgé. D'autant que, justement, dans la société dans laquelle on est, où il y a des gestes barrières, on n'a plus le droit de se prendre dans les bras, on n'a plus le droit de... En fait, toutes ces émotions dans lesquelles on se prive pour, au service de la vie qu'on prend dans... Qu'on protège, et c'est normal. Toutes ces émotions, on les retrouvait au théâtre, on les retrouvait dans les salles de spectacle, d'aller voir un concert, d'aller voir de la musique, d'aller voir, je sais pas, n'importe une pièce de théâtre ou un ballet de danse. Et en fait, moi, je retrouvais ces émotions-là, c'est-à-dire l'amour, la fraternité, l'interrogation, le questionnement, la sauvagerie, le sensible, tout ce dont on est privé en ce moment, on les retrouvait au théâtre. Et là, qu'on nous interdise d'y aller, là, on est vraiment doublement... c'est la double peine, quoi. Mmh. Et c'est là où ça devient, enfin, super dur à encaisser. Mmh. Voilà.
C'est vrai que je reviens sur ce que vous disiez là. Moi, ce qui me tient avec ce contexte où on est complètement quelque part anéanti dans nos émotions du vivant et de la relation, puisqu'elle ne peut pas se faire physiquement, mais du coup j'écris, mais du coup la création elle se fait. Alors je vous interroge plus sur le côté du coup la création, dans ce qui vous tient. Elle se passe comment quand on est coupé des autres, justement? C'est intérieurement, c'est avec son imaginaire, de tout ce qu'on a gardé en soi et qui fait ça. Voilà, ça vous oblige à une introspection. Qu'est-ce qu'on écrit à ce moment-là, par là?
Il y a des choses. Pour ce qui me concerne, moi, je suis une éponge, donc effectivement, en ce moment, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, il y a une urgence, il y a une double urgence. Il y a d'abord celle de sortir ce qu'on a dans le ventre du monde qui nous entoure, donc qui a une couleur plutôt obscure, on va dire. Mais il y a aussi une urgence de légèreté. Parce que sinon le monde il est trop noir, quoi. Et donc cette urgence de légèreté, elle passe par imaginer, se réfugier dans des histoires plutôt drôles, plutôt légères, plutôt jolies, tendres, naïves, qui font que en ce moment, moi, j'assume totalement la naïveté, chose que je faisais pas avant, parce que je crois qu'on en a vraiment tous besoin, la naïveté de l'enfance, même des gosses, quoi, où on peut écrire des choses bisounours et cuit-cuit, les petits oiseaux. Je pense qu'en ce moment ça fait de mal à personne. Donc voilà, moi je suis dans cette double facette d'essayer d'expier le monde en le vomissant, en le régurgitant, en le vomissant, en écrivant des choses assez sombre, et puis l'autre facette, d'écrire des choses plutôt drôles et légères.
Donc ça veut dire qu'il y a finalement dans votre façon de créer, en tout cas dans l'écriture, il y a peut-être des choses, une nouvelle façon d'écrire par rapport au texte d'avant. Enfin, j'aime pas parler comme ça, un peu le monde d'avant, le monde d'après là, mais vous sentez un peu votre écriture évoluer, changer? Ou pas du tout d'ailleurs.
Si, il y a des choses qui bougent, notamment en fait, par exemple, moi dans mon processus d'écriture, j'aime bien écrire et revenir sur les textes beaucoup. Et en ce moment, je fais pas ça. J'écris d'un premier jet. C'est une écriture hyper organique. Et je souhaite pas revenir sur les textes parce que je trouve que c'est une photographie d'un instant T. Par exemple, hier, il y avait une manifestation à Rouen. Et du coup, j'ai écrit un texte en me disant que j'allais qui s'appelle Vivre, voilà, sur le oser vivre, le oser prendre les virages de vivre. Et donc c'est un texte que j'ai écrit, que j'ai, voilà, de manière très 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 organique et instantanée. Je ne suis pas revenu dessus, je suis allé à la manif, je l'ai dit, et voilà, ça a existé, et ça résonne un peu comme ça. Donc ouais, c'est une écriture plus instinctive, en tout cas que j'ai pour le moment, et c'est ce que je souhaite défendre en ce moment.
Mais qui relate finalement l'urgence de dire et l'urgence de vivre, simplement, enfin voilà.
C'est ça, ouais, ouais, exactement.
Et du coup, bon, voilà, il y a l'écriture, la création dans ce qu'on peut produire à l'heure actuelle, mais après, c'est vrai que vous l'évoquiez dans vos premiers propos, il y a la question après de avec quels moyens, quels outils, quelle diffusion, de se sentir coupé des moyens de ce support après, de ce que vous avez créé et produit. Du coup, est-ce que pour vous, il y a des biais, il y a d'autres solutions, il y a quelque chose que vous avez mis en place sur des modes de diffusion autres, sur le partage, sur cette mise en relation qui se fait avec ne serait-ce que d'autres professionnels ou des publics ou, voilà, comment, est-ce que ça a été aussi pour vous quelque chose de créatif ou pas ou...
Bah, il y a plusieurs choses qui sont passées. Je sais qu'il y a des collectifs qui se sont montés, en tout cas pour que des spectacles puissent avoir lieu sous d'autres formes, dans lesquels j'ai fait partie de deux collectifs qui portaient les mêmes noms, qui s'appellent Et Maintenant. Un dans le Limousin et un ici dans l'agglo. Et donc voilà, on a joué dans les jardins, on a joué au pied des immeubles, on a joué voilà, partout où on pouvait jouer. Et puis évidemment, il y a le biais aussi vidéo qui, moi, m'angoisse un peu parce que parce qu'on fait du spectacle vivant. Après, c'est notre manière d'exister en ce moment. Donc là, de plus en plus, moi, on me propose des concerts en streaming. Donc je pense que ça nous fait exister, effectivement, mais faut pas, jusqu'à quel point on cautionne ça, c'est la question du moment. Ensuite il y a quand même, on peut quand même jouer, par exemple, moi, mon ogre en papier que j'ai créé au Tangramme chez vous, on est autorisé à jouer devant des parterres de professionnels, des gens du métier, parce que ça fonctionne voilà, dans des toutes petites jauges. Donc moi, par exemple, j'ai créé un spectacle jeune public sur lequel je vais être en tournée en ce moment, et j'ai joué plein de fois devant que des adultes, et très peu d'adultes. Mais ceci dit, il y a tellement un truc d'aller voir des concerts, que même de jouer en fait devant 10 professionnels dans une salle de 500 places, ça pourrait être sur le papier paraître très très angoissant, et en fait les gens ont trop envie d'aller voir des spectacles, donc même cette autorisation là fait que c'est hyper agréable malgré tout, mais ça change quand même.
Alors moi je vais jouer aussi la naïveté, c'est-à-dire que dans ce que j'entends de ce que vous nous racontez, ça veut peut-être aussi dire que à nous, monde de la culture, peut-être aussi d'inventer d'autres façons de partager, de rassembler, de se réunir. J'ose utiliser ce terme, même si c'est à distance, ça veut peut-être dire envisager d'autres façons de faire aussi.
Bah oui, c'est sûr, hein. Alors là, il y a plein de choses à inventer, mais le truc, c'est que on est dans une telle contrainte que l'invention, ceci dit, hein, c'est comme dans les ateliers d'écriture, hein, c'est la contrainte, la contrainte provoque l'inspiration, quoi. Mais là, on est dans une telle contrainte d'imagination que comment se réunir, il y a des choses qui peuvent se passer. Hein. Alors, au-delà du fait de jouer en extérieur, je vois pas trop jouer sur des toutes petites jauges.
Ouais.
Mais oui, en tout cas, l'heure est à l'invention, quoi. Et à la résistance de l'imagination, hein. Vraiment, il faut leur montrer que l'imagination, elle est encore bien présente et qu'il y a des gens qui sont là pour la porter.
La contrainte la plus difficile tout de même, c'est que tous ces spectacles vivants, justement, sont conçus, sont même imaginés et sont à unique but, c'est de rassembler des gens dans le même espace quand même et partager des choses d'humain à humain, de regard à regard. Aujourd'hui, les propositions d'invention restent quand même tournées beaucoup autour du virtuel. Et vous le disiez il y a quelques instants, jusqu'à quel point on cautionne ou pas cette virtualisation du spectacle vivant, c'est aussi se poser la question du après, même si on n'en a pas la visibilité aujourd'hui.
Oui, c'est sûr.
C'est les nouvelles habitudes qui se prennent, quoi, finalement.
Ouais. En fait, c'est comment on va pouvoir... En fait, moi, la peur que j'ai, c'est qu'on s'enferme dans un truc et qu'on n'arrive pas à le déconstruire par la suite. Mais je pense qu'il y a ça bouillonne tellement d'envie de se retrouver chez tout le monde que j'ai bon espoir qu'une fois qu'on aura tous fait 50 concerts en vidéo, que les gens, ils en auront marre de voir des concerts derrière leur écran, que après, on va éteindre nos ordinateurs et qu'on va se retrouver pour de vrai.
On va les rendre, carrément. On va les rendre.
On va les rendre.
On va refaire des conteneurs qui repartent aux fournisseurs.
Mais après, le concert radio, par exemple, je pense que c'est un truc qui peut être super chouette, quoi, parce que bah déjà, il n'y a pas d'écran, on est vraiment juste dans l'écoute, on peut s'imaginer ce qui se passe. On est chez soi, on peut faire la vaisselle, en faire rien, se balader, écouter ça. Je crois que ça, c'est un truc qui, moi, en tout cas, me botte plus qu'un concert derrière son ordi, quoi.
Finalement, qui laisse encore une toute petite part à l'imaginaire, même si elle n'est pas celle de la salle, elle reste celle de pas d'image et de se les fabriquer soi-même.
C'est ça. Et en fait, c'est la base de... En tout cas, moi, de ce que je fais quand j'écris des chansons, c'est que chacun se fabrique les propres images de la chanson que je chante. Et donc il y a autant de décors possibles qu'il y a d'imaginaires et de gens. Et je trouve que la radio, ça, c'est quelque chose qui se rapproche vachement de ce que moi je fais, en tout cas.
Je rebondis sur justement ces modes de diffusion, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est la vraie question en ce moment qui fait beaucoup débat dans le monde de la culture, hein, de la diffusion sur plateforme numérique. Et quand on s'y penche, c'est vrai, on se dit, bon, où est l'émotion? Et moi, je trouve que c'est aussi un moyen où on peut, en fait, travailler une parole. Si c'est que l'image pour l'image et derrière son ordinateur, c'est clair que c'est stérile à la fin. Enfin, c'est pauvre et ça tombe et on oublie et quelle émotion ça fait. Mais si on s'en sert sur un moment, un temps vraiment d'échange et de parole en direct, et qu'une parole peut se construire autour de ça, au-delà de l'imaginaire, moi je trouverais ça. Il y a cette possibilité-là, en tout cas, dans ces supports-là.
Oui, non, mais c'est sûr. En fait, ça permet de rester en lien malgré tout.
Oui.
Et en fait, c'est déjà ça, parce que le jour où il n'y aura vraiment plus de lien entre personnes, ce sera la fin du monde. et là, du coup, ça permet quand même de garder ce lien. Mais parce que, comme vous dites, je trouve ça. Du coup, faut l'utiliser assez de manière pertinente, cet outil vidéo. Et c'est-à-dire, moi, par exemple, là, j'ai fait quelques vidéos, mais c'est vraiment. Quelque chose qui fait écho à ce qui se passe actuellement, quoi.
Oui.
J'ai créé un truc, j'ai pas sorti un titre, un morceau lambda que j'ai déjà joué en concert. C'est vraiment, si je fais une vidéo, c'est pour raconter un truc qui va faire écho chez tout le monde, quoi. Actuellement, voilà.
Tout à fait.
Sur une création comme L'Ogre en papier, parce que vous évoquiez tout à l'heure Ben Herbert Larue, que vous l'avez joué devant des professionnels, c'était un spectacle prévu familial et que finalement ce sont que des adultes solos qui viennent le voir. Est-ce qu'au bout d'un moment aussi, ça interagit avec cette création qui, j'imagine, comme elle sortait de résidence, là c'était en octobre, hein, je crois, de mémoire, vous sortiez de résidence en octobre. Est-ce que c'est une création du coup qui bouge, qui est mouvante et qui, le temps qu'elle soit présentée au public auquel elle était destinée initialement, finalement va encore un peu bouger?
Nous, on a créé un objet artistique qui nous plaît, mais après, les spectacles, ils se font en jouant, en fait. Donc là, moi, pour le moment, ce dont j'ai besoin, c'est de me confronter à un public familial et d'enfants, puisque ce spectacle, il est pour ce public-là. Et donc, du coup, j'ai besoin de le jouer, et c'est là qu'il va se construire. Donc, Donc là, tout de suite, non.
Finalement, les professionnels, le regard du professionnel, finalement, est moins, je sais pas, virulent pour la vie du spectacle que finalement le regard du public pour qui il est destiné initialement, quoi.
Bah, c'est ça. En fait, bah non, le professionnel, il nous fait un retour qui est un retour de professionnel, donc on prend, on adapte. Mais bon, on a joué 10 fois devant des pros, donc à un moment, c'est bon, on a maintenant, il faut qu'on se confronte absolument à un public. Et on ne demande que ça, et du coup, on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Il y a une super chronique de Thomas VDB qui est vachement drôle, où il disait au gouvernement, est-ce que le jour où on va avoir le droit de reprendre les spectacles, est-ce que vous pouvez nous prévenir ailleurs que 2 jours ou la veille, s'il vous plaît, parce que ce qui va tuer la culture, c'est peut-être en fait nous-mêmes, parce qu'en fait, on aura tellement pas joué depuis longtemps qu'on va faire que des spectacles super bancables. Et voilà, donc nous on a envie de jouer et on a envie de faire notre première qu'on n'a jamais faite, et on aimerait bien qu'on en prévienne au moins une petite semaine avant de la faire, sinon ça va être...
C'est ça, prévenez-nous une petite semaine avant histoire qu'on se mette bien.
C'est clair.
Sur cette période-là, finalement, autant l'humain que l'artiste, voilà, quels sont, j'ai envie de dire, vos rêves, vos attentes, je ne sais pas comment le formuler, parce qu'on ne peut pas vraiment formuler d'attentes très, très directes, mais quels sont vos rêves, vos attentes dans cette période si particulière ?
En tant qu'humain, j'aurais vraiment envie qu'il n'y ait pas de scission, en fait, c'est des grands mots là, attends, on est dans de la grande discussion, mais qu'il n'y ait pas de scission chez les humains, quoi. Et en ce moment, il y a un climat vraiment très très clivant sur plein de choses, sur le être ensemble, sur est-ce qu'on peut se voir à plus de 6, est-ce qu'on peut s'approcher, est-ce qu'on peut boire un coup ensemble, est-ce qu'on peut se faire vacciner, pas vacciner. Et j'aimerais bien qu'il y ait une ouverture d'esprit par rapport au choix, tu vois. En fait, je crois qu'on est tous des humains adultes assez intelligents, et ce serait chouette qu'on puisse respecter le choix de l'autre, le choix de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner, le choix de je veux tenir la main de ma grand-mère parce que ma grand-mère elle est en train de mourir et qu'elle est toute seule et que j'en ai rien à foutre et qu'elle aussi, donc je vais lui faire un câlin et la prendre dans mes bras. Parce que peut-être la dernière image qu'elle va voir de moi, c'est moi avec un masque à 1 mètre d'elle. Et ça, c'est pas possible. Et tu vois, et que du coup, il y a une espèce de truc d'accepter en fait le choix de l'autre sans forcément obéir à 100% à ce dont on nous martèle tout le temps. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien qu'il y ait une ouverture par rapport à ça. Ça nous ferait un peu respirer, quoi.
Bah écoutez, voilà. Sur ces belles paroles de liberté d'expression et de sentiment, je pense que c'est des belles phrases pour terminer notre échange et notre interview de ce matin. Merci. Okay. Merci Ben Herbert.
D'ailleurs Ben, on se quitte et on va enchaîner nous avec un titre que vous avez produit avec quelques amis artistes aussi, qui s'appelle Et maintenant. Voilà, c'était juste pour vous passer l'info qu'on enchaînait. Vous voulez peut-être nous dire un petit mot sur ce titre-là qui est finalement l'exemple même de tout ce qu'on vient de se dire, avec l'envie de continuer à partager et puis surtout l'envie de dire ce qu'on ressent et tout ce qui nous traverse durant cette période.
Ouais, bah justement, dans les idées de faire des vidéos dans l'urgence du moment, c'est un truc. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit bon, ce serait bien qu'on se réunisse. Donc j'ai envoyé des messages à plusieurs copains artistes, auteurs, en disant voilà, ça vous dit, on fait un titre ensemble. Je vous donne le thème, c'est Et maintenant. Donc voilà, Gauvrage, Luciole, Mélismel et Igitt m'ont répondu en disant pas de soucis. Chacun a écrit un bout de couplet. J'ai fait appel à Clément Mirguet à la composition, qui m'a fait une instru. J'ai appelé un studio, enfin j'ai appelé pas mal de gens, tout le monde était à fond partant bénévole pour faire exister ce titre. Et une semaine plus tard, on était en studio, on a enregistré, on a filmé, et voilà, on a sorti le titre qui a vraiment beaucoup, je pense qu'il a fait écho chez plein de gens parce que il y a eu énormément d'écoute.
Je confirme.
Donc voilà, c'était, ça nous a fait du bien de sortir ça, et d'avoir été ensemble pour le faire. C'est super.
Et ça nous a fait du bien à nous de l'accueillir. Voilà. Merci Ben.
Merci Ben. À vous.
À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Et maintenant, à quoi on rêve? Quand on bâillonne nos mâchoires, je maquille mes yeux de rouge à lèvres pour t'embrasser du regard. On va rayer ce qui est laid sur le verre de nos lunettes. On vient balancer un pavé dans la mare de leur paraître. On déconfine la force d'y croire, la force de jamais rien lâcher. Quand la rage se mêle à l'espoir, c'est toute la jungle qu'on va chevaucher.
Maintenant que nos poignées de main restent figées au fond de nos poches, qu'il faut plonger dans un regard pour apercevoir un sourire, qu'il faut plonger dans un souvenir pour ressentir l'étreinte du proche, maintenant qu'on masque jusqu'à nos soupirs, il va nous falloir être beau comme on s'imagine un lendemain. Il va nous falloir être grand puisque c'est comme ça qu'on est beau. Si c'est à partir de maintenant que l'horizon a son chemin, je veux partir aussi loin que je veux partir au plus tôt.
Et maintenant, à quoi on vit? Et maintenant, à quoi on rêve? Les poings levés sur le parvis, tout notre essentiel se soulève. Quand ça déclame, quand ça écoute, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en doute. Et maintenant, à quoi on chante? Et maintenant.
Parce qu'on a verrouillé les portes, mais pas enfermé nos voix. Parce que nos mots traversent les murs, qu'ils se faufilent par les serrures. Parce qu'on veut sauter les barrières, parce qu'on veut briser le cadenas. On s'étire pour étreindre l'air en attendant. Parce qu'au-dedans c'est le ressac, le bidon vrac, la lame de fond. Parce qu'on a versé quelques larmes, parce que les rigoles sur nos fronts, un peu de gomme et nos sourires. On espère au creux d'une chanson, on prend de l'élan, on inspire. Dedans, c'est le ressac, le bilan vrac, la chape de plomb. Parce qu'on veut essorer nos larmes, parce que les rigoles, les sillons creusés, nos souffles, nos soupirs. On espère au creux d'une chanson, on prend de l'élan, on inspire. Et maintenant.
Et maintenant, on fait comment pour rêver des ailleurs? Moi, je l'overdose des ici, je serai toujours là dans une heure. Et si la nuit se nourrit de ce qu'on voit le jour? Quand est-ce qu'on vit? Quand est-ce qu'on voit? Un peu plus loin que les carrefours, et on leur dira quoi? Aux minots qu'auront peur, quand le printemps venu, resteront confinés leur cœur. Et on chantera quoi dans ces théâtres en ruine? Quand seront à la rue les poètes et les ballerines? Et maintenant.
À quoi on vit? Et maintenant, à quoi on rêve? Le poing levé sur le parvis, tout notre essentiel se soulève. Quand ça déclame, quand ça écoute, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en doute. Et maintenant, à quoi on chante? Et maintenant.
C'est pas des miettes que l'on veut, c'est pas ma part du gâteau, c'est pas ton pain auquel je rêve, de la boulangerie tout entière que je veux voir en autogestion. Et maintenant, à quoi on joue? À ceux qui se délivrent du démon ou à ceux qui vont droit dans le trou? Aux portes, je ne vois que des serrures, mais au monde, des grands murs sans aucune fissure dedans. À quoi tu joues maintenant? À quoi tu joues maintenant? À quoi tu joues maintenant? À quoi tu joues maintenant?
Et maintenant, à quoi on vit? Et maintenant, à quoi on rêve? Le poing levé sur le parvis, tout notre essentiel se soulève. Quand ça déclame, quand ça écoute, quand il arrive, quoi qu'il en doute. Et maintenant, à quoi on chante? Et maintenant. Et maintenant, à quoi on vit? Et maintenant, à quoi on rêve? Le poing levé sur le parvis,
viens, on l'invente.
Gauvrach, Luciole, Igitt, Émilie Smel, bien entendu, avec l'ami Ben Herbert Larue que nous avions il y a quelques instants à nos micros. On poursuit, on avance dans cette émission, autour du spectacle vivant, comme on le disait au début. C'est un sacré défi là de faire quand même de parler spectacle vivant dans la période. Mais voilà, c'est ce que nous avons fait.
Ouais,
et puis Et puis, suite à l'échange, notamment avec Ben Herbert Larue, on va tout vous dire, on se fait des offs aussi au micro. on l'a repris au téléphone derrière pendant qu'on nous diffusions le titre pour lui dire, bon, bah, à bientôt, bisous, voilà, tout ça, tous ces protocoles, on va dire aussi, parce que nous aussi, on a des protocoles de d'accueil. Voilà.
Tout à fait, avec de la chaleur et des bisous.
Avec de la chaleur dedans. Voilà. Et on se disait, bah oui, effectivement, il l'évoquait durant l'interview. On s'est dit, sortie d'interview, bah oui, effectivement, il parlait des textes qu'il écrivait qui n'étaient pas diffusés. Il parlait de ce besoin aussi d'imaginaire, d'outils radio qui étaient effectivement très adaptés à cet imaginaire. Et bon, on est en train de prendre rendez-vous pour vous préparer des petits quelque chose. Voilà, c'est ça aussi, c'est ces fameuses rencontres qui se faisaient en vrai à une époque dans les salles, dans les après concerts, après spectacles, après voilà, où naissaient aussi tout un tas de choses. Bah aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les faire naître, ces petits quelque chose qui étaient parfois juste issus du moment vécu. Et puis, bah, ça démarrait un autre moment, une autre création, un autre quelque chose. Et c'est ces petits moments aussi qui manquent, qui font défaut aujourd'hui.
Et qui reviendront. Il faut continuer à y croire. Ils reviendront, ces moments-là, et il y a d'autres moments qui continuent d'exister.
La preuve aujourd'hui.
on continue quand même à aller à la rencontre du territoire, des habitants du territoire, et notamment des enfants, qui sont, c'est eux l'avenir, c'est eux le futur. Donc oui, on continue à aller vers eux et dans les écoles. Alors, plus spécifiquement de mémoire, on est dans... Alors, est-ce que je le dis maintenant ou est-ce qu'on en...
Bah, on le dit maintenant, on envoie et on vient dessus.
Ça marche. Donc on était...
C'était super bien parti.
De mémoire dans l'école, à l'école du Bois-Boilly, dans la classe de Madame Souya, en compagnie de Laetitia donc Adjanoun. Laetitia Adjanoun, elle est autrice associée au Tangram cette saison. Et effectivement, elle intervient sur le quartier de Netreville. C'est une classe. Alors là, je vais sans doute me tromper. Je ne sais plus si ce sont des CM1 ou des CM2, mais voilà, des élèves de cycle 3 qui travaillent avec Laetitia.
Et nous avons donc laissé nos micros se balader. Vous allez voir, ça chuchote un petit peu parce que c'était en pleine séance de travail.
De Mars.
Donc c'était une personne qui venait de Mars, c'est ça? Elle est arrivée à Netreville et elle a envahi à elle toute seule tout le quartier. Oui. C'est crédible ça?
Non.
Si on peut dire oui, hein.
Ça se peut.
Ça se peut?
Oui.
Bon,
ça
donc
se peut.
Si ça se peut, disons que ça se peut. Donc, et comment elle a fait pour envahir et pour conquérir? Pourquoi les Netrevillais ne se sont pas battus?
Bah non, ils vont me suivre, ils ont peur.
Donc il ne reste plus que cette personne ici. C'est ça?
Oui.
Et elle transforme des enfants en monstres alors qu'il n'y a plus d'enfants. Donc comment est-ce qu'on sait qu'elle transforme des enfants en monstres? Ou les parents ont fui sans leurs enfants?
Oui.
Ah, c'est ça qui s'est passé. Donc les parents lâches ont vu cet homme arriver, ils se sont dit, oh là 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 là, ils sont partis, oui. Ils ont laissé leurs enfants.
Oui.
Ils sont partis en une nuit.
Oui.
Tu vois, en fait, il faut essayer de construire le truc, parce que si tu dis qu'il transforme les enfants en monstres, il faut qu'il y ait encore des enfants à notre vie, sinon ça marche pas. D'accord? Ok? Bon, super.
Je peux me permettre de te poser quelques questions?
Okay, alors,
comment te prénommes-tu?
Moi?
Oui, ton prénom.
Beïsa.
D'accord. Qu'est-ce que tu étais en train de faire là?
J'étais en train de m'écrire une histoire pour Netreville.
C'était quoi le point de départ?
Le point de départ, c'était que toute la France avait pris feu, mais ils avaient remarqué qu'il y avait une ville qui restait, et c'était Netreville.
Et donc vous deviez trouver la raison de pourquoi Netreville existait encore?
Oui.
Et alors toi, quelle raison as-tu trouvé?
Moi j'ai trouvé parce que la France elle a pris feu, mais il ne restait qu'une ville encerclée par l'eau, du coup on ne pouvait plus circuler. Et il fallait soit prendre l'avion ou un hélicoptère pour partir de Netreville jusqu'à un autre pays.
On dit encore 3 minutes et puis...
Après, l'histoire, je sais pas. Non. Après, genre, il reste que cette ville de la France. Après, la France, elle a disparu, le reste. Il reste que ça.
C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire?
Oui, j'écris beaucoup, moi.
D'accord, donc pour toi, c'est plutôt sympa, alors.
Oui.
Donc là, aujourd'hui, il y a Laetitia qui vous accompagne. Ça vous apporte quoi d'avoir Laetitia qui vous aide?
C'est bien parce que genre, on peut apprendre des nouvelles choses et comme ça on pourra savoir la vraie histoire des vrais ou des inventer des choses.
Qu'est-ce que tu es en train de faire là?
En fait, je suis en train d'inventer une histoire sur une maladie.
Et en fait, ça a commencé quand il y avait une personne, en fait, qui c'était un savant fou. Et il était tellement laid qu'il a été rejeté de notre ville. Du coup, il a voulu se venger et il a inventé une arme qui permet de transmettre beaucoup de maladies. Et puis après, le chef de notre ville, il a décidé de couper les limites de notre ville pour que personne ne l'attrape.
Voilà, c'était notre micro qui se promenait dans cette salle de classe de CM2, effectivement, Cécile, sur un temps d'écriture.
Voilà, en fait, ils ont commencé les ateliers. Alors, de mémoire, ils les ont commencés en octobre. Il y a eu une première séance en octobre, quelques séances en novembre, mais il y a eu un gros temps de travail là sur fin novembre, début décembre, où effectivement Laetitia Janoun est venue. Donc, elle travaille en tout avec trois classes sur l'écriture comme ça de nouvelles. Donc, voilà, vous l'aurez là. On est en plein dans l'imaginaire, hein, voilà. Mais ce qui est, voilà, l'imaginaire des enfants est très très prolixe. Le point de départ, c'était de partir du quartier de Netreville, d'un endroit dans Netreville. Voilà, c'est les enfants qui devaient choisir les endroits. Et donc là, on était vraiment au tout début, hein, c'est-à-dire que la base, c'était de dire, il ne reste plus, comme vous l'avez compris, que Netreville dans le monde. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et puis, bah là, depuis, ça a effectivement évolué. On a des enfants qui se sont plus ancrés sur certains lieux du quartier, notamment le terrain de foot, avec des chèvres mutantes qui sont arrivées sur le terrain de foot. Enfin, c'est assez drôle. Voilà. Ces enfants-là, ces classes-là, vont passer le relais là, à partir de la semaine prochaine à trois autres classes qui, elles, vont mettre en voix, en fait, les textes qu'elles auront écrits. Et là, elles vont travailler donc avec Pierre Lamandé, qui est donc comédien. Et puis, au mois d'avril 2021, ces trois autres classes comédiennes, entre guillemets, passeront elles-mêmes le relais à trois autres classes qui, elles, mettront en musique, en tout cas, mettront en son l'univers de chacun de ces textes-là. Voilà. Il faut savoir qu'on travaille du coup aussi avec donc toutes les écoles élémentaires sur le quartier de Netreville. Hein. Là, nous étions à Bois-Boilly, mais on travaille aussi avec l'école Paul-Éluard et puis avec l'école Jacques-Cartier. Alors, majoritairement avec des classes de CM1, CM2. Il y a, je crois, une ou deux classes de CE2 aussi sur le projet. Mais voilà, et l'idée, c'est que les enfants se passent le relais, comme ça, au sein du quartier, et puissent faire circuler leurs paroles. On est épaulé sur le quartier par l'équipe de l'AL2E, du centre social et de l'association AL2E, qui nous suit, qui nous a mis à disposition des locaux à certains moments et puis qui nous accompagne aussi, puisque l'idée, c'est que ces ateliers puissent aussi, à un moment, travailler avec les familles et les habitants du quartier, de toutes générations confondues.
Et ce qui fait écho aussi au fameux projet Mémoire de quartier, porté actuellement sur le quartier de Netreville, pas par le centre social, mais tous les acteurs avec qui ça joue. J'en profite pour glisser, parce que ça fait le lien sur le projet Mémoire de quartier, sur cette petite production, cette petite œuvre multimédia dont on est tombé amoureux, hein, qui a été réalisée par Principe Actif et Frédéric Grimaud sur l'image.
On en avait parlé dans Scène de vie du mois dernier, mais
elle est sortie.
Allez-y. Allez sur le Facebook et...
Voilà, celui de la radio, celui de Frédéric Grimaud, celui de l'AL2E, celui de... Je sais pas, parce qu'en fait, ça échappe après, hein, ça se partage. Et c'est ça le but. Voilà, allez sur vos réseaux, cliquez dessus. C'est une très très belle production aussi. Ça soulève aussi cet extrait audio et puis ce projet en particulier sur les légendes urbaines. Ça soulève aussi le fait d'écrire à nombreux. Parce qu'une classe de CM2, c'est 25-27 élèves à peu près. Et écrire à 25-27, on entendait Laetitia qui dirigeait la classe. Bon, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça marche? Et pourquoi et comment? C'est toute la difficulté d'écrire, de s'inspirer des uns des autres. Quand on a 12-13 ans, hein, c'est 12 ans, hein, le CM2, 11-12 ans.
Plus petit que ça, c'est même CM2, c'est même 10 ans pour certains.
Oui, c'est vrai, 10-11 ans. ans, oui,
10, 12 ans, mais voilà, pour ceux qui auraient un peu de retard. Mais oui, ça sollicite l'écoute aussi, l'écoute de l'autre. Et puis, puis c'est effectivement la découverte de l'écriture, des mécanismes d'écriture et de tout ce que ça implique. Effectivement, le début de l'extrait, on entend Laetitia qui les questionne et qui pousse un petit peu. Il suffit pas juste de dire ah bah il y avait plus d'enfants parce qu'ils ont été mangés. Ok, mais par qui, par quoi, comment, quand? Et ça intègre en fait toute cette mécanique d'écriture, voilà, que les enfants découvrent.
Très bien, ben voilà un projet dont on vous redonnera des nouvelles quand il sera audible, visible, audible en tout cas.
Oui, audible, ça, on ne prend pas
pour l'instant,
Et nous devrions d'ailleurs les diffuser en principe. Voilà. On se fait une dernière petite pause musicale, une qui nous invite à prendre l'air et à sortir.
Allez.
Allez, une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci un petit message directement dans la gueule du président. Ouais, je sais, ça serait pas cool pour les vieux, mais sérieux, depuis quand toi tu t'inquiètes pour les vieux? Allez, laisse-nous sortir. On s'en fout de crever maintenant, vu l'avenir qui nous attend. Alors s'il te plaît, fais au moins un bon truc en 5 ans. Putain, laisse-nous sortir. On n'en peut plus de bouffer, on devient tous gros. Et ce virus n'aime pas les gros, regarde les Américains. Alors laisse-nous sortir. Puis des traitements, on en trouve plein. Pourquoi attendre ton vaccin qui au final fera encore moins d'effets qu'un Doliprane? Putain, laisse-nous sortir. Plus on reste enfermé, plus on sort, t'en faudra raquer. Ça se voit que c'est pas à toi qu'on va demander tout rembourser. On va tous finir chômeurs, tellement là vous êtes trop lents. Et comme d'hab, ça sera encore vous qui nous traiterait de feignants. Forcément, y'a plus de masques, la thune est partie pour des drones pour surveiller ceux qui auraient pu sortir s'ils avaient eu des masques. Laisse-nous sortir. Du coup, ces putains de masques, on est tous en train de les fabriquer. Promis, on apprendra à ta porte-parole comment les enfiler. Mais laisse-nous sortir. Comme d'hab, les évadés fiscaux, tu vas leur venir en aide pendant que les noirs pourront s'asseoir sur l'annulation de leur dette. Mais laisse-nous sortir. Ça devient n'importe quoi pendant que je descendais en chaussons pour sortir mes poubelles. On m'a demandé mon papier à la con. Putain, laisse-nous sortir. Pendant 2 ans, les gilets jaunes, tu leur as crevé les yeux pour pas qu'ils bloquent l'économie. Et là, tu viens de le faire pour eux. Et voilà.
Voilà, laisse-nous sortir, vous l'aurez reconnu, Didier, super, bien entendu. Nous arrivons sur la fin de cette émission avec le traditionnel agenda, Nathalie.
Eh bien oui, eh bien, écoutez, là je vous propose que l'on reporte notre rubrique agenda, hein. Et je propose même une clause de revoyure au 20 janvier, même à la fin du mois, pour que nous puissions aborder le contenu de cette rubrique. Qu'en pensez-vous, mes chers co-animateurs?
De toute façon, avons-nous le choix?
Eh bien non.
Bah voilà.
Eh bien non. Laisse-nous sortir. Mais par contre, on peut toujours se faire des petits films. Bien sûr, pas dans les salles. Mais gardons notre rubrique cinéma pour terminer notre émission avec un petit film choisi, eh bien, par JC.
Oui, alors c'est un film choisi par JC, c'est un film dont j'attendais la sortie, voilà, avec impatience, qui est sorti cet été entre deux quoi, j'ai envie de dire.
Ouais.
Ouais, c'est, alors je sais pas si c'est comment dirais-je stratégiquement une bonne chose cinématographiquement, mais cependant c'est deux réalisateurs qui auraient pu écrire eux-mêmes la stratégie de l'échec ou en tout cas qui ne font pas pour réussir. Voilà, c'est Gustave Kervern et Benoît Delépine. Tout le monde sait, ça fait partie de l'équipe du Groland, hein, notamment. C'est le film Effacer l'historique, voilà, qui pose son regard de manière assez incisif sur finalement toutes ces questions du numérique, toutes ces questions de l'internet, de la consommation, de la robotisation en fait des relations humaines, du plus de lien direct avec les personnes. Et donc voilà, moi je l'avais attendu impatiemment. Alors forcément, il fallait avoir un créneau disponible de très très court hein, pour aller le voir. Il est sorti au mois d'août hein, de mémoire.
Ah oui.
Ce film. Donc voilà, bon, si, il y a eu possibilité de le voir, mais il est passé un peu inaperçu, moi je trouve, parce qu'en fait, il y avait une retenue de toutes les sorties cinéma. Donc quand les sorties cinéma se sont faites, ça a été une jungle pas possible. Voilà, c'est voilà, je voulais souligner ce film, effacer l'historique avec de Gustave Kervern et puis Benoît Delépine. Ils ont eu l'occasion déjà de signer des productions ensemble.
Mammouth.
Notamment, voilà, il y en a eu plusieurs qui ont été réalisées. À chaque fois, c'est un regard un peu décalé par rapport à ce dont nous avons l'habitude. Je vous propose qu'on se quitte en écoutant cette bande-annonce et puis que nous nous retrouvions le premier vendredi du mois de février à 12h30 pour continuer de vous parler de spectacles vivants en espérant pouvoir vous annoncer un agenda, comme le disait Nathalie, un peu plus fourni que pour ce mois-ci. C'est moins qu'on puisse dire. On s'est dit on va arrêter de se faire du mal et on va pas donner d'agenda.
Non.
Voilà, on se quitte là-dessus, effacer l'historique, disponible bien entendu sur les plateformes, hein, c'est, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu la vie du cinéma en ce moment, disponible sur les plateformes.
Ben oui. Ouais. Et d'ici là, on a dit, allez, on vous souhaite,
souhaite de vivre.
De vivre et d'imaginer quand même, continuer à imaginer.
Ah non, je peux plus faire l'amour avec vous, monsieur, je le saurais hein, quand même.
Donc vous m'avez offert un whisky. Donc à ce moment-là, je vous ai proposé de venir dormir chez moi. Et on a fait l'amour.
Comment ça, une vidéo?
Vas-y, comme ça.
Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? T'es venu, c'est ridicule.
Ouais, parce que je suis breton, ma grand-mère a inventé la galette saucisse.
Ça, c'est un gros bignou, ça?
Ouais.
Oh oui.
Putain, sex tape.
Faut effacer ça tout de suite?
Si je veux vous faire chanter, je vais pas l'effacer.
On m'a filé le contact d'un hacker. Là.
Si vous pouvez effacer celle-là aussi, c'est ma fille. Hein. Ça, c'est le portable de la gosse qui a fait la vidéo. J'ai écrit 42 lettres recommandées à Facebook. Aucune réponse, rien.
Je vais pourrir ta vie comme t'as pourri la mienne. Hein? Je vais te spoiler la face.
Moi, tu vois, c'est sur l'application client.
I am a taxi driver. I need more stars.
Okay.
You are alone, tout doux.
We are alone.
C'est pire qu'un bracelet électronique, cette merde.
Ça a pris.
Vidéos qui sont portées en enfer dans un data center hyper sécurisé.
On va aller les chercher nous-mêmes. On a pris le rond-point Leader Price, on va pas se faire emmerder par deux data centers.
Fuck le coffre.
Sylvain, c'est maman. Ne tape pas mon nom dans Internet, s'il te plaît. J'arrive.